Histoire naturelle, le podcast qui parle de notre rapport à la nature à travers des regards et des approches multiples. Animé par Tassani Allo. Bonjour et bienvenue dans le podcast Histoire naturelle, un podcast qui a commencé en 2020. Il s'agit de la nouvelle saison de ce podcast, je l'espère une saison 4 tonitruante avec de nouveaux invités. Mon temps libre ne me permet pas d'enregistrer un très grand nombre d'épisodes, donc je m'excuse par avance pour le manque d'activité de ce podcast. En attendant, récemment j'ai enregistré un épisode avec l'artiste plasticien Floswad Benadi. Donc pour la petite histoire, j'ai rencontré Floswad Benadi lors de sa sortie de résidence grâce à l'association Mode d'emploi qui propose des résidences aux jeunes artistes sortant d'école tout fraîchement. Et c'était un petit café, en tout cas un déjeuner, petit déjeuner proposé par l'artiste et l'association à l'endroit même où se déroulait la résidence. Endroit où on avait été convié si on avait envie de venir voir Floswad Benadi et discuter avec lui autour de son travail et de sa pratique. Et ce matin-là, c'était une matinée assez difficile pour moi. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais levée du mauvais pied et j'avais du mal à avancer dans la vie ce jour-là. Et je me suis dit, vais-je aller tout de même à ce café pour discuter avec Floswad, sachant que le petit résumé de sa pratique qui avait été fait par la résidence, en tout cas par l'association Mode d'emploi, était très alléchant parce que, en effet, à peu près tous les 2-3 lignes du paragraphe, je me retrouvais dans sa pratique et je me disais, on a vraiment beaucoup de points communs dans ma pratique à moi en tant qu'historienne, mais aussi en tant qu'artiste. Et donc c'est pour ça que, de fil en aiguille, je me suis posé moi-même la question, parce que ça fait un moment que mon podcast tourne un petit peu en rond, même si j'ai beaucoup d'idées pour parler d'autres histoires naturelles. Ça fait un moment que j'avais envie d'apporter le point de vue d'artistes, donc ça avait été déjà fait notamment avec l'artiste Peneski, mais j'avais envie aussi d'apporter des regards un peu plus originaux. Et il s'avère que Floswad Benadi a une pratique tournée autour de la question de la recherche, et en tout cas une façon de vulgariser la recherche par l'art, de passer un message, le message des chercheurs de tout domaine par sa pratique artistique. Et j'ai trouvé ça très intéressant, surtout que cette fois, pour sa résidence, Floswad Benadi s'est intéressé aux plantes. Je me suis dit que nous avions énormément de points communs et qu'il fallait que j'y aille. Donc je me suis levée fissa et je suis allée à ce petit café petit déjeuner sortie de résidence. Et c'est donc là que j'ai rencontré Floswad Benadi qui avait installé son exposition, ses installations en tout cas, à la fois au rez-de-chaussée mais aussi à l'étage de l'Octroi. C'est là où se trouvent en fait les résidences des jeunes artistes. C'est un bâtiment assez ancien qui se trouve proche de ce qu'on appelle l'arrêt tranchée, l'arrêt de tramway de la tranchée. L'endroit est assez curieux parce qu'en fait il donne à la fois sur la Loire et aussi donc sur la ville de Tours. Comme c'est un endroit ancien, c'est aussi un endroit avec du cachet et Floswad Benadi l'a bien exprimé, ça change un petit peu des murs en placo tout blanc de nos écoles de beaux-arts. Et j'étais ravie de pouvoir aller discuter avec lui, ça m'a fait vraiment très plaisir de le rencontrer. On a eu une discussion très riche, je ne sais plus combien de temps ça a duré, peut-être une heure, peut-être deux heures, mais c'était très intéressant. Et quand je suis arrivée, en fait, j'ai été déjà frappée par la mise en place, la mise en espace de l'Octroi avec des assises, une table, des sièges, mais également un travail sur du tissu, un travail sur du papier, un travail d'édition, comme il l'exprimera dans ce podcast, et puis aussi des recherches un peu plus diverses sur les vitres de l'Octroi, quelques vidéos qui paraissaient sur des écrans au rez-de-chaussée. À l'étage, il y avait une espèce d'assise à terre avec une table carrée, des flyers ou en tout cas des petits zines déposés sur la table. Il y avait aussi quelques cartes qui parlaient de plantes et puis accrochées au mur des costumes, enfin en tout cas des pièces de costumes dont il va nous parler dans le podcast. Et j'ai trouvé tout ce travail très cohérent, sa façon de présenter les choses était passionnante. Donc je vous laisse découvrir un petit peu Floswad Benadi. Et pour présenter Floswad Benadi, Il a été formé donc à la Villa Arson à Nice et à l'ERG, l'école de recherche graphique à Bruxelles en Belgique. C'est un artiste pluridisciplinaire, donc un artiste plasticien qui s'empare de toutes les pratiques qui l'entourent, qui l'inspirent et qu'il découvre à force de travail et de recherche. Flossod Benadi, justement, cherche à travers l'installation et l'édition à déployer des recherches diverses qui le questionnent, comme notamment le lien entre les plantes et les hormones, recherche passionnante et très actuelle, les histoires du corps, des corps, et comment circule tout type de savoir et d'expérience, comment transmettre, échanger sur ces expériences, et ça a été vraiment pour moi une découverte de voir cette attention de l'artiste à la transmission de savoir qu'on peut dire qu'on peut qualifier de complexe, notamment les savoirs sur les hormones ou sur les plantes, à travers des médias tels que le papier, les zines, les flyers, des petites cartes, des images, des vidéos, des choses finalement assez simples mais extrêmement réfléchies, extrêmement travaillées. Il travaille aussi en collaboration avec Luna Petit sur des projets de peinture sur vitre, in situ, et de dessins à plusieurs mains. Il a aussi créé FSB Press, son alter ego éditorial, qui lui permet de publier ses mots, mais aussi ceux des autres. Et j'espère franchement que ce travail d'édition ira plus loin encore, car c'est tout à fait intéressant. Son site flossodbenadi.hotglue.me est en cours de construction apparemment, mais je vous laisserai le lien dans la barre de description. Pour ajouter à ce qui va être dit dans le podcast, dans cet épisode, ce qui a été vraiment intéressant, c'est qu'on a pu discuter de choses que moi j'étudie dans le cadre de ma thèse en histoire. J'étudie l'histoire souterraine des plantes, donc les racines, les rhizomes, les tubercules, à travers l'époque moderne, donc du 16e au 18e siècle, comme objet végétal, donc objet de savoir, objet aussi de pouvoir, en étudiant les pratiques, les usages, les coutumes autour de ces racines, par exemple des racines médicinales, des racines alimentaires, ou les racines en tant que marchandises, en tant que qu'objet culturel et objet de science. Et nous avons pu discuter de cela parce que l'une des œuvres de Flossod Benadi ce jour-là, c'était une vidéo où on pouvait entendre réciter un texte de Samir Boumediene, un livre « La colonisation des savoirs sur les plantes médicinales » qui a un peu bercé toute ma recherche de thèse depuis le début. Et il y a aussi des petits extraits de des textes de Samir Boumediene qui étaient écrits, notamment sur des vêtements de cueillette, comme les appelle Flossod. Le travail autour des herbiers, de l'herboristerie m'a passionnée parce que le regard de l'artiste est essentiel pour moi, selon moi, pour décrire le monde qui nous entoure. Le regard seul du scientifique n'est pas forcément le bon. Il y a certes une objectivité dans la science, dans la recherche académique et universitaire, mais il manque une certaine dose, on va dire, de créativité que les artistes ont. Dans leur subjectivité, bien sûr, parce que c'est en réfléchissant à ce que la science peut leur apporter à eux ou à elles en tant qu'artistes, à ce que peut aussi leur apporter la science comme méthode d'expérimentation, procédés expérimentaux, que l'artiste peut développer d'autres pratiques, peut développer des protocoles originaux et créatifs. Et c'est ça qui m'a un peu plu dans le travail de Flossod Benadi, c'est qu'à partir de lectures d'ouvrages d'herboristerie tout à fait classiques, venant de la pharmacologie ou de l'herboristerie du 19e ou du 20e siècle, à partir d'essais comme celui de Samir Boumediene, ou de lectures plus complexes autour de la transidentité et des plantes à hormones, eh bien Flossod Benadi a réussi à recréer un récit de la plante et à se l'approprier en tant que savoir pour lui et pour les autres, parce qu'il y a véritablement une générosité dans son travail, tournée vers les autres, d'autres personnes vers qui ce savoir pourrait être utile. Eh bien c'est avec ce type de recherche-là qu'on peut s'apercevoir qu'on a d'autres angles, d'autres points de vue sur la science et sur comment la science est pratiquée. Or là, il y a une ouverture de l'artiste vers d'autres disciplines. C'est la sociologie, des disciplines de la culture, aussi du patrimoine végétal, puisque l'artiste Flossod va nous dire dans l'épisode qu'il a été avec sa collègue artiste cueillir des plantes en bord de Loire, en tout cas s'approprier l'imagerie, le paysage qui a entouré l'octroi, la résidence dans laquelle il était, pour comprendre et pour avoir une vision du monde spécifique pratique et puis, on va dire, originale par rapport à ce que la science apporte. C'est donc cette perspective originale et créative de l'artiste que nous allons décrire et j'espère que cet épisode vous plaira. J'espère aussi en faire beaucoup d'autres pour venir un peu contrebalancer tout ce qui a été dit dans les autres épisodes et peut-être apporter voilà, un autre point de vue sur chacun des sujets que nous avons déjà abordés, que ce soit les plantes, mais aussi l'environnement, les questions environnementales, le climat, les animaux et puis tout ce qui tient du non-humain. Je vous souhaite donc une bonne écoute et je mets toutes les informations nécessaires dans la barre d'infos. Voilà, c'est parti. Donc, peux-tu te présenter ? Qui es-tu ?
Alors, je suis Flo-Swat Benadi, je suis artiste et j'ai plutôt une double pratique que je déploie sous des formes d'installation. Et j'ai aussi un travail éditorial que je publie sous FSB Press, qui est un peu un alter ego aussi.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est ton parcours ?
Oui, alors j'ai un parcours au final assez classique. Donc moi j'ai grandi à Paris et pendant mon lycée j'avais des cours d'art, enfin principalement en fait des cours d'art. Parce que j'étais à l'époque en L section, enfin spécialité art plastique et option art plastique. Et donc j'étais persuadée que j'allais faire de l'art. Et j'aimais beaucoup ça et c'était un peu une des raisons qui rendait le lycée supportable. Et ensuite je suis allée en prépa publique à Fontenay-sous-Bois, à la prépa Pablo Picasso, la CAP Pablo Picasso. Et c'était pour préparer au concours des beaux-arts, mais aussi des arts appliqués. Et je savais pas trop ce qui me convenait. Donc j'ai passé les concours et assez rapidement au final, je me suis rendu compte que j'avais plus envie d'aller aux beaux-arts. Donc je suis allée aux beaux-arts de Nice pendant 5 ans. Et c'était pas facile au début. Parce que les Beaux-Arts de Nice, c'est quand même des Beaux-Arts qui sont assez dans la compétition. Et je ne me retrouvais pas forcément en fait, dans tout ça. Et je pense que je ne m'attendais pas non plus à être face à des personnes qui étaient fils et filles d'eux. Enfin, en tout cas, voilà. C'était vraiment la découverte d'un monde particulier. Et donc voilà, j'ai passé mon diplôme. Le DNA, enfin le diplôme des 3 ans, et puis après je suis allée en Erasmus en Belgique, à l'ERGE, en design et politique, parce que ça m'intéressait de un peu creuser ma pratique éditoriale aussi, et découvrir autre chose aussi. Donc j'ai fait ça, et puis après je suis revenue à Nice pour terminer et faire mon diplôme de 5 ans, enfin du DNSEP. Et puis après, je suis retournée à Paris et j'ai fait un peu des expos, j'ai assisté à un artiste, Tony Regazzoni, j'ai un peu fait différentes choses pour voir aussi comment on fait une vie d'artiste, ce qui est un peu un sujet infini, quoi. Et j'ai terminé un peu par une résidence du coup à Tours. De 3 mois à mode d'emploi. Et puis là, j'ai déménagé en Belgique et j'essaye de continuer à être artiste tout en cherchant un job à côté aussi. Voilà, un petit peu mon parcours jusqu'à maintenant.
D'accord. Et tu as quand même toujours senti que tu voulais être artiste ou c'est quelque chose qui t'a été révélé assez tard finalement ?
Je pense que j'ai toujours voulu faire des choses liées à l'art. Que voilà, c'était soit je voulais être prof d'art plastique, soit je voulais... Enfin, je me disais pas, je vais être artiste parce que je savais pas que c'était un travail, entre guillemets, quoi. Mais je savais que je voulais travailler dans ce qui était artistique, quoi. Mais je pense que je me pose toujours la question, hein. Parce que c'est pas quelque chose de donné, et puis c'est quelque chose qu'on doit toujours un peu actionner nous-mêmes. Mais c'est vrai que... c'est aussi trouver un peu comment on veut être artiste, plus que si on est artiste, je pense. Du coup, c'est un peu là les questions qui me taraudent, parce que c'est une chose d'être artiste durant un moment à l'école d'art, où, entre guillemets, c'est tes études, et puis après, quand t'as plus cette structure, t'as plus ce temps alloué, mais t'as aussi plus de liberté parce que t'as pas des profs qui te disent que ta pratique est pas légitime, mmh. ou plein d'autres choses aussi qui peuvent être très très désagréables et très relou.
Ouais.
Donc c'est un peu un moment aussi intéressant pour ça, quoi, parce que je pense que je me réintéresse à des choses qui m'intéressaient moi, mais qu'on me disait que c'était pas intéressant, ou en tout cas que j'étais pas soutenue, et donc à un moment tu te dis ah ouais, peut-être que ça vaut pas le coup, et alors qu'en fait ça vaut le coup.
Ouais.
Donc, voilà.
Et alors moi je t'ai rencontrée quand tu étais donc en résistance à l'octroi pour mode d'emploi, et donc tu exposais ton travail, enfin tu avais fait une recherche spécifique à cet endroit.
Mmh.
Est-ce que tu peux un peu expliquer comment tu en es arrivé à cette recherche plastique-là ?
Alors du coup, ce que je montrais à mode d'emploi, c'était un peu un mix justement de ma pratique plus d'installation, et ma pratique éditoriale, ce qui me plaît le plus en fait. Et j'avais aussi... Enfin, mode d'emploi, donc ce qui m'a interpellé, c'était l'espace qui est du coup très fort architecturalement, et qui est du coup pas un c'est un bâtiment vraiment en pierre, c'est pas des murs en placo, quoi, comme on peut avoir l'habitude en école d'art ou dans des institutions artistiques. Et donc on a intervenu aussi sur les vitres avec Luna Petit, qui est une artiste avec qui je travaille, à base de, donc on a intervenu avec des dessins avec du blanc de Meudon et du pigment, et donc ça c'était un temps de travail à deux qui a duré quelques jours, et c'était hyper, hyper chouette parce qu'on était très libres, et du coup on est allé sur les bords de Loire, on a travaillé sur nos dessins à deux, parce que notre collaboration elle essaye de se renouveler à chaque projet en fait, et on essaye de trouver une méthodologie différente à chaque projet, en lien aussi avec l'endroit où on est en fait, et pas essayer de calquer notre manière de faire sur un endroit qui n'est pas fait pour, entre guillemets. Donc il y a eu ça, je présentais aussi des anciennes anciens travaux, comme un rideau sérigraphié à partir des recherches que j'ai faites sur les plantes qui augmentent les taux d'hormones. Donc il y avait ça aussi qui était présent. Il y avait des habits que j'appelle des habits de cueillette que j'ai fait durant la résidence, notamment aussi avec un des habits où à l'intérieur il était sérigraphié un des textes de Samir Boumediene, qui est un peu un texte qui moi m'a porté, me porte, où il parle du fait que on avale des morts tous les jours. Enfin, je fais un peu des raccourcis, mais voilà. Et puis il y avait aussi un endroit un peu de consultation d'édition au sol, parce que ça m'intéressait de travailler l'espace aussi, comme c'est un espace sur deux étages, un peu l'espace de l'entrée et où tout le monde est debout. Et puis après l'espace d'en haut où on peut s'asseoir. Et oui, ça je ne l'ai pas précisé, mais j'ai travaillé un peu les assises. Donc en bas, c'était des tabourets habillés en fait, de tissus que j'avais récupérés. Et avec des éditions accrochées aussi sur les assises. Et en haut, c'était plutôt des formats de coussins. Mais pareil, à partir de chutes de tissus qui avaient été utilisées soit pour faire les habits de cueillette ou soit pour d'autres projets. Donc c'était essayer de créer un lien entre... ce qu'on voyait. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est à partir de matériaux un peu proposer des espaces qui se répondent, faire avec ce qu'il y a, quoi, comme élément. Et donc, voilà, il y avait cet étage, c'est très déstructuré ce que je raconte, mais à l'étage, il y avait cette table avec du coup un texte que j'ai écrit qui s'appelle « Si tu trouves pas les fioles », et aussi des cartes que j'ai faites sur, pareil, un peu ma synthèse sur les recherches sur les plantes qui augmentent les taux d'hormones. Et ça, c'est des cartes que j'ai faites durant une résidence aux ateliers téméraires à Brest. Et donc, c'était un moment, enfin, c'était un endroit où on pouvait plus se poser et consulter ça. Et voilà, à peu près.
J'ai l'impression que tu travailles beaucoup sur la question de l'accessibilité à tout ce que tu découvres autour des plantes. Parce que c'était des endroits... conviviaux et chaleureux où on pouvait justement s'asseoir ensemble. Donc tu travailles un peu là-dessus, sur le fait que ces données doivent être plutôt accessibles aux autres. Et comment tu es arrivé en fait à réfléchir à ces plantes-là et à cette cueillette, etc. Comment ça t'est arrivé?
En tout cas, pour la question de ouais, l'accessibilité, ou en tout cas du contact avec le travail, Je pense qu'en troisième année, j'avais essayé de... Enfin, comment dire, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on est dans des situations et on essaye de trouver des manières de faire avec. Et moi, quand j'étais au Beaux-Arts, je trouvais que le format du diplôme était très codifié et ça me... Et je n'étais pas à l'aise dans ça. Donc, ce que j'avais essayé de proposer, c'était pendant toute une journée, des gestes entre deux soins qui pouvaient être expérimentés par l'entièreté de la communauté de l'école. Et à la fin, le jury venait voir, mais n'avait pas forcément accès à, en fait, aux soins proposés. Je pense que c'était une manière de rendre les endroits vivables, agréables, et en tout cas l'institution, si on veut utiliser des grands mots comme ça. Donc j'ai fait ça, et puis après je me suis dit, bon, je sais pas en fait si c'est possible. Et donc je me suis plutôt tournée vers des formats d'édition qui peuvent exister autre part. Et la circulation du travail, c'est... Le travail, il n'existe pas pareil partout. Et donc... Je viens aussi d'un milieu plutôt transpédéguine, où moi j'étais, enfin en tout cas on m'a ouvert les portes de ce milieu-là par aussi des fanzines, des textes, et c'est quelque chose de très simple au final à mettre en place. Je suis aussi un enfant d'internet, donc la circulation de textes d'inconnus, de textes de personnes connues un peu, qui se mélangent et qui créent une nouvelle culture d'une certaine manière. Et donc, je pense que c'est essayer, quand on entre dans un endroit, on a envie d'y rester. Et c'est ce que j'essaye de faire dans les installations. Et c'est pour ça que ça m'intéresse aussi, quand même, la mise en espace des choses. Parce qu'on a envie de rester dans un endroit, parce qu'on le trouve agréable, chaleureux, ou... Voilà, parce que je pense toujours à des personnes qui se sentent plutôt pas à l'aise dans des endroits. Et donc, je me dis, comment on fait pour essayer de rendre des endroits agréables.
Je me souviens qu'en fait, c'était vraiment pour... et créer des nouveaux modes de vivre et en même temps aussi des moyens de désacraliser par l'accessibilité à tes petites notices sur les plantes, aux données en fait, sur la nature, sur les choses en fait en général qui ne sont pas institutionnalisées. Enfin, c'est ça que tu essayes de faire un peu en tant qu'artiste.
Je pense oui, et puis aussi, je sais pas si c'est le genre... J'essaye de les faire exister, mais en tout cas, c'est des choses qui, moi, m'intéressaient. Et de les faire, oui, circuler sous des formes qui, moi, me conviennent et qui sont propres à qui je suis. Donc, par l'édition, par la rencontre, parfois avec des temporalités très longues, mais ça me convient et ça me plaît. Et oui, je pense que c'est toujours ça, c'est de pas... En fait, ce qui m'intéresse, c'est quand on a l'impression qu'on peut s'emparer des choses. Et ben, un tableau... moi, en tout cas, j'ai du mal à m'en emparer parfois. Je pense que c'est matériellement pas fait pour, forcément. Du coup, j'essaie de trouver des modes via les matériaux pour le faire. Donc voilà, le livre, les objets en général. Et ça, c'est ce qui m'a fort marqué. Je viens pas du tout d'une formation de design, mais c'est ce qui, moi, m'intéresse, par exemple. C'est comment... En fait, l'objet d'art, il a sa valeur aussi parce qu'il n'est pas en série forcément. Et donc ça brasse aussi des questions de moyens de production, de capitalisme, etc. Et ça, c'est un peu des questions que j'essaye de me poser. Et j'ai pas forcément les réponses. Mais en tout cas, plutôt de me diriger vers ça, quoi. Que faire des installations qui soient déjà réglées et qui sont tout le temps les mêmes. Et qui peuvent exister à plein d'endroits comme espèce de formule ad vitam aeternam, quoi.
C'est un peu une installation performance en fait, c'est entre les deux, où les performateurs, ça serait les gens qui viennent découvrir ta pratique, etc. Est-ce que tu peux juste nous dire, parce qu'il y avait une vidéo de toi qui lisais les textes de Samir Boumediene avec ton ami.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que vous avez fait dans cette vidéo et pourquoi?
Alors, il y avait du coup deux vidéos. Il y avait la première partie et la deuxième partie. La première partie, c'est Carlota Sandoval, qui est une amie artiste, avec qui j'avais fait une randonnée slash balade plutôt que grosse randonnée, dans les montagnes environnantes de Nice, parce que c'est là où j'ai fait mes études, et je lui avais proposé de lire des extraits de ce texte pendant cette balade. Aux espèces végétales, un peu comme un espèce de retour, même si c'était pas forcément les espèces végétales qui étaient dans le livre dont parlait Samir Boumediene, mais en tout cas c'était comme cette histoire de on lit des histoires sur les plantes et on peut lire ces histoires-là à des espèces végétales. En tout cas, d'essayer de créer un peu une espèce de cercle comme ça. Et ça permettait aussi faire découvrir ce texte à Carlotta, parce que je pense que ça l'intéressait, et de le faire sous un modèle de balade, quoi. Parce que je pense que c'est ça aussi, en tout cas moi c'est ce que j'aime dans l'art, c'est un peu des projets voilà, qui pourraient sembler inutiles mais qui en fait sont très agréables à faire, et moi c'est ça qui me porte aussi. Et il y avait une deuxième partie où là c'est moi qui lis des extraits d'un livre de Ida Bost sur le métier d'herboriste au temps du certificat. Et là je le lis au jardin botanique de Tours, notamment l'endroit où c'est le carré des plantes médicinales qui est en face de la fac de médecine, et où les étudiantes et les étudiants en pharmacie viennent aussi apprendre à reconnaître les plantes, etc. Et dont notamment des plantes qui augmentent les taux d'hormones, comme par exemple la sauge qui était en culture là-bas. Et y a aussi l'hôpital Bretonneau en face. Et du coup, je trouvais que c'était un espèce de triangle assez intéressant, en tout cas qui apportait mon imaginaire. Donc c'était un peu deux parties comme ça, parce que aussi mon travail c'est juste mettre en forme de la recherche, et comment on met en forme de la recherche, et ça peut passer par la lecture, ça peut passer par plein de formats, et donc j'essaye d'expérimenter ça.
Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes pratiques futures, qu'est-ce que tu as envie de développer par rapport à ce projet-là ou d'autres projets plus tard?
Je pense que j'ai pas envie de plutôt développer ma pratique éditoriale, parce que c'est un mode de vie, un mode de production qui me convient, qui est plus en lien avec mes réalités. Ça m'intéresse, je pense, de venir un peu, pas perfectionner, mais en tout cas re-questionner et un peu comment je fais les choses. Et puis c'est aussi agréable parce que c'est un médium qu'on peut faire à plusieurs, et ça c'est ce qui me plaît. Et puis aussi avec Luna Petit, on travaille en sérigraphie ensemble. Donc ça, à Bruxelles, on est en train d'essayer de monter un projet comme ça, qui n'est pas encore très très défini, mais qu'on est en train de faire, et du coup en se faisant, il se définit. Et j'aimerais potentiellement aussi publier d'autres auteuristes que je rencontre, parce que ça c'est aussi intéressant de travailler sur des projets d'autres personnes. En fait, c'est ça qui me plaît. C'était hyper intéressant, la résidence. Et j'ai essayé aussi de bosser avec d'autres personnes, mais je pense que bosser seul, c'est quelque chose qui m'intéresse de moins en moins. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est essayer de savoir bien ce que je fais et le faire avec d'autres personnes et se nourrir entre nous. Donc, voilà.
Oui, tu penses que l'art, c'est collectif, c'est mieux.
Je pense qu'en fait c'est plus intéressant parce que ça permet de soutenir d'autres personnes, se soutenir soi, mais aussi soutenir d'autres, et c'est avec qui on a envie d'être en lien et avec qui on a envie de faire sa vie en fait.
Oui. C'est un beau message pour 2023, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Histoire Naturelle. Toutes les informations seront en barre d'infos, et vous pourrez également retrouver un article plus complet avec toutes les références sur le blog histoirenat.hypothèse.org. À bientôt dans le podcast Histoire Naturelle.